France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui intitulée « Relations et échanges entre l'Église orthodoxe et les Églises orthodoxes orientales », inspirée de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, célébrée tous les ans du 18 au 25 janvier et organisée cette année autour du thème de l'espérance. À cette occasion, nous avons invité Christine Chaillot, orthodoxe engagée depuis très longtemps dans le dialogue entre ces églises et auteure de plusieurs livres, dont celui dont nous parlerons dans cette émission, paru en anglais en 2025 aux éditions de l'Académie de Volos. Donc le titre en français, c'est « Relations et échanges entre les églises orthodoxes chalcédoniennes et les églises orthodoxes orientales non chalcédoniennes, dans le passé et aujourd'hui ». Christine Chaillot, bonjour.
Bonjour.
Avant de commencer, précisons que lorsque nous parlons d'églises orthodoxes non chalcédoniennes ou églises pré-chalcédoniennes, nous entendons les églises chrétiennes qui n'ont pas reçu le concile tenu en 451 en Chalcédoine, concile qui a statué sur les deux natures, divine et humaine, du Christ. Le livre que vous venez de faire, chère Christine, est préfacé par le patriarche œcuménique Bartholomée Ier, contient un grand nombre d'articles dont les auteurs sont des noms souvent très connus dans le monde de la théologie, et vous signez vous-même l'introduction de cette publication ainsi que trois articles. Alors pourquoi cet ouvrage et quelle est son approche générale, votre manière de voir ces choses ?
Oui, en effet, je pense que dans les dialogues théologiques entre chrétiens, quels qu'ils soient, il ne suffit pas de parler de théologie, mais aussi d'autres sujets. Et c'est pour ça que dans cet ouvrage, on a 31 articles qui sont répartis en 9 parties, l'histoire après Chalcédoine, la théologie et les relations entre ces deux familles d'églises, bien entendu, mais aussi les échanges linguistiques, la circulation des manuscrits et les traductions, les similitudes et les échanges des textes liturgiques et monastiques, les similitudes et les échanges également dans la vie spirituelle, et ainsi que les échanges et les influences artistiques. Ça, c'est un petit plus. Et la 9e partie est consacrée au dialogue actuel entre les églises donc chalcédoniennes, qu'on appelle aussi orthodoxes orientales, et les églises non chalcédoniennes, qu'on appelle les églises orthodoxes orientales. Oui, c'est orthodoxe et orthodoxe orientale. En fait, c'est difficile à traduire en français ces termes anglais, Eastern Orthodox et Oriental Orthodox. Donc, le livre propose des exemples d'échanges et de relations entre ces deux familles d'églises au fil des siècles et jusqu'à nos jours, dans au-delà des frontières. Et c'est cette approche au-delà des frontières, me semble-t-il, qui est intéressant pour mieux comprendre comment dépasser les malentendus historiques et théologiques du passé au niveau ecclésial, politique, culturel et bien au-delà, bien entendu.
Alors, plusieurs dimensions, comme vous le dites, mais peut-être avant de rentrer dans le contenu du livre, parlons un tout petit peu du dialogue qui existe déjà, parce qu'il y a un dialogue qui existe quand même depuis assez longtemps maintenant, depuis plusieurs décennies. Et on sait que des pas ont été quand même franchis, c'est très important. Donc, il y a un dialogue local. En France, ça nous intéresse bien sûr parce que nous sommes en France. Et puis, il y a un dialogue international.
Alors, le dialogue a commencé de manière informelle, non officielle, dès 1964. Et puis, ce dialogue a été officialisé depuis 1985, grâce en particulier au travail du métropolite Damaskinos, du patriarcat de Constantinople, au centre orthodoxe de Chambézy à Genève, c'est là d'ailleurs où se trouve ma paroisse. Et la dernière rencontre de ce dialogue a eu lieu au monastère de Saint-Bichoy de l'église copte orthodoxe en Égypte en septembre 2024. En France, on peut dire que les rencontres entre ces deux familles d'églises, donc orthodoxes et orthodoxes orientales, sont plus informelles. Je dirais qu'il y a plus de rencontres entre les évêques et les prêtres. Et à mon avis, il serait intéressant de développer les rencontres entre le clergé et les fidèles. C'est ce que j'avais tenté de faire lorsque j'habitais à Paris avec une association que j'avais créée à cette époque. Mais il faudrait qu'on continue ce travail du dialogue que j'appelle dialogue pratique.
Très bien. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va rentrer dans la perspective du livre, la manière dont vous l'avez conçu. Vous avez vous-même dit tout à l'heure qu'il y a le dialogue théologique qui est bien sûr fondamental, parce qu'il y a des différentes théologiques où on pense devoir résoudre des questions théologiques. Et de l'autre côté, il y a aussi d'autres dimensions, une dimension sociale, pastorale, je dirais, artistique aussi, vous avez dit. Alors qu'en est-il au fait ?
Je pense qu'il faut d'abord bien comprendre pourquoi il y a eu ce schisme en 451. Donc, il s'agit d'un problème christologique, puisque à Chalcédoine, pour la première fois, on dit que le Christ a deux natures. Pourquoi deux natures ? Pour parler de sa divinité aussi bien que de son humanité. Et c'était donc une nouvelle formulation qui a été refusée par ces églises non chalcédoniennes, parce que justement, il voulait rester fidèle à la tradition de l'Église apostolique, n'est-ce pas ? Et donc, il voulait rester donc fidèle aussi à la formulation de Saint Cyrille d'Alexandrie, qui lui parle de une nature, ou physis en grec, une nature de Dieu, le Verbe incarné. Et on comprend bien que cette formule parle aussi bien du Christ qui est vrai Dieu, puisqu'on parle du Verbe et de Dieu, et incarné. Donc, on parle de l'humanité en Christ. Et donc, on peut dire qu'il s'agit là d'une nature, puisque c'est au singulier et pas au pluriel, le mot grec physis, d'une nature composée et qui inclut, comme je viens de l'expliquer, le divin et l'humain en Christ, sans mélange. Ça, c'est très important. Et de plus, c'est la formule de Saint Cyrille d'Alexandrie. Et Saint Cyrille est un père de l'Église qui est, et un saint aussi, qui est commun aux deux familles d'Église, n'est-ce pas ? Donc, chalcédonienne et non chalcédonienne. Et je dirais, ça c'est très important, que c'est dans les études qu'on fait, ou qu'on peut faire, dans de nombreux textes liturgiques, c'est-à-dire les prières que font ces églises non chalcédoniennes depuis cette époque du 5e siècle, après Chalcédoine, et dans d'autres textes des églises non chalcédoniennes, on peut lire, on peut voir, on peut constater que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Donc, ce sont des éléments clés pour résoudre le problème de Chalcédoine. Donc, on comprend bien qu'il s'agit d'un malentendu, comme on dit, terminologique, qui a provoqué ce terrible schisme après le concile de Chalcédoine. Et au XXe siècle, comme je l'ai dit, depuis 1964, ce sont des théologiens contemporains qui étaient les meilleurs, on peut dire, et qui représentaient chacun leur patriarcat. Donc, des gens très bien formés qui ont étudié cette question en profondeur et qui se sont mis d'accord pour dire que la foi christologique des deux familles d'Église est semblable, mais exprimée avec des formulations différentes. Donc, je pense qu'il est grand temps de faire l'unité d'une manière concrète. Mais voilà, il reste le poids de l'histoire. Et il s'agit donc, à mon avis, d'expliquer ce malentendu au-delà des incompréhensions et au-delà, je dirais aussi, de toutes sortes de blocages, parce qu'on peut avoir des blocages aussi nationalistes et je dirais même psychologiques. Et en résumé, je dirais, il faut apprendre à se connaître et à informer, c'est ça le mot-clé, à informer le clergé, les fidèles et, entre autres, par des publications, c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre.
Comme celle que vous avez faite. Alors, on sait très bien que les théologiens qui se sont penchés sur la question ont quand même vu que très souvent, on disait presque la même chose, ou la même chose, mais en des termes différents. Vous avez fait allusion à Saint Cyrille d'Alexandrie, donc un père du 5e siècle, et sa phrase célébrissime, évidemment, dans l'histoire du dogme, « Mia physis theologus et sarcomène », une nature de Dieu, le Verbe incarné la nature, et c'est ce qui a donné, d'où le nom également miaphysite. Très souvent, on a appelé ces familles chrétiennes pendant très longtemps des monophysites, et puis on a compris que parler de miaphysite, c'était plus précis, parce que ça correspondait davantage à la phrase de Cyrille. Alors, il y a le côté théologique, comme vous dites, c'est très important, on a fait des pas, mais comme vous avez dit vous-même, il y a le poids de l'histoire, et on ne peut pas effacer l'histoire. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière pour certaines choses grâce à ce dialogue pastoral? Vous avez parlé de crispation nationaliste aussi, etc. Même le travail artistique qui parfois, parce que par exemple l'art de l'icône est un art qui est partagé entre les orthodoxes byzantins, je dirais, et les autres. quels sont les points sur lesquels il faudrait insister pour essayer de rapprocher?
Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'étudier en même temps ce qui est semblable et aussi la diversité de ces traditions. Par exemple, évidemment, l'emploi des langues peut être commun, parce que le grec, évidemment, est utilisé par les orthodoxes dits chalcédoniens, et ensuite, bien sûr, ça c'est la tradition byzantine, dans toutes les autres langues qu'on connaît dans les mondes slaves et autres, y compris l'arabe. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, même dans le patriarcat grec orthodoxe, donc chalcédonien d'Antioche, on a aussi utilisé le syriaque. Et en fait, pendant les premiers siècles, le syriaque était la langue principale qui était parlée dans cette partie du Moyen-Orient. On parlait le grec dans les grandes villes. Alexandrie, Antioche, c'était les villes intellectuelles où il y avait aussi les écoles de théologie. Mais dans les campagnes, dans ce qui est la région aujourd'hui du sud-est de la Turquie, de la Syrie et jusqu'au nord de la Jordanie, c'était le syriaque que parlaient les chrétiens. Et donc, on oublie ou on ne sait pas que les chrétiens orthodoxes d'Antioche ont utilisé le syriaque comme langue liturgique jusqu'au XVIIIe siècle. Et justement, on a un article qui explique tout ça dans notre livre.
Vous avez un article et vous avez aussi une couverture qui est importante. C'est un manuscrit liturgique qui est écrit en syriaque, mais avec des inscriptions grecques et arabes aussi, ce qui montre bien que nous sommes dans un univers, dans un milieu, si vous voulez, où ces langues sont toutes présentes.
Oui, et donc on peut pas s'opposer au niveau des langues. Mais il faut, parce qu'on s'imagine que c'est très complexe, on va pas venir dans les détails, mais donc il faut comprendre surtout ce qui est très intéressant à comprendre, c'est la diversité et la richesse de ces différentes traditions. Donc dans les textes des traditions coptes, éthiopiennes, syriaques et arméniennes, on trouve des différences, mais aussi des ressemblances et des complémentarités avec les textes de la tradition grecque orthodoxe byzantine. Par exemple, au niveau des textes monastiques, des textes canoniques et aussi patristiques, parce qu'évidemment, tous les grands-pères de l'Église avant 451 sont communs, et donc ils ont été traduits aussi dans les langues, que ce soit le gaze en Éthiopie, le syriaque, l'arménien, etc. Donc là, on a un très riche fond, si j'ose dire, de textes qui restent fondamentaux pour toutes les deux familles d'Église, donc les orthodoxes chalcédoniens et non chalcédoniens. Au niveau des musiques liturgiques, on va entendre un morceau et donc on verra que ces musiques liturgiques elles sont toutes très différentes, toutes magnifiques à mon avis. Et au niveau iconographique, vous faisiez allusion à ça, on trouve des caractères spécifiques à chaque tradition iconographique, mais on trouve aussi des emprunts et des ressemblances. Parce qu'évidemment, il y a eu des peintres, par exemple, d'icônes qui étaient à Jérusalem et qui, par exemple, ont voyagé en Égypte. Et on voit bien les influences. On a aussi des influences de Crète, de Chypre, et d'ailleurs, qu'on retrouve dans l'iconographie des églises orientales. Donc, on a aussi quelques articles qui parlent de tout ça dans notre livre.
Nous allons faire une pause maintenant, et cette pause, c'est pour aller dans l'église, mais pas n'importe laquelle. Évidemment, nous sommes dans le monde syriaque, et on va entendre un extrait du CD intitulé « Église syrienne orthodoxe, liturgie d'Antioche », édité par l'UNESCO il y a longtemps de ça. Et ces chants sont interprétés par le chœur mixte de l'église Saint-Ephrem d'Alep, qui est dirigé par Malfonos Kandar.
Allah, Allah, Allah.
Et après ce chant syriaque, chanté par le chœur mixte de l'église Saint-Ephrem d'Alep, dirigé par Malfono Skandar, nous revenons à notre entretien avec Christine Chaillot à propos de la parution de son livre « Relations et échanges entre les églises orthodoxes calcédoniennes et les églises orthodoxes orientales non calcédoniennes dans le passé et aujourd'hui ». Alors, chère Christine, on a vu un peu, en vitesse évidemment, mais nous avons vu la richesse, la diversité de ce monde que nous appelons non calcédonien, qui en fait est extrêmement varié. Hein, c'est pas
oui, alors très très proche des églises orthodoxes.
Il faut peut-être préciser aussi quelles sont les églises dont nous parlons. C'est l'église apostolique arménienne, l'église éthiopienne, l'église copte, et puis
l'église syriaque.
Syriaque également. Hein.
Oui.
Et donc ça fait plusieurs familles, et parfois ils sont aussi, on les retrouve à l'étranger, donc on sait qu'il y a aussi des contacts qui s'établissent dans les pays de la diaspora entre les orthodoxes et les calcédoniens et les non-calcédoniens. Alors, vous proposez dans le livre, et puis vous-même, vous avez travaillé depuis longtemps sur ces relations, des perspectives, la manière dont on pourrait diriger le dialogue. Vous avez dit il ne faut pas qu'il soit seulement théologique. Ça reste bien sûr au cœur du dialogue. Mais quelles sont les autres dimensions qu'on pourrait donner vraiment et qui sont aussi, et qui seraient, comment dire, réalistes, parce qu'il faut aussi être réaliste dans ce genre de situation.
En effet, bon, je pense que le dialogue ne devrait pas porter seulement sur ce qui divise ces deux familles d'églises. Et là, on peut parler de toutes les églises et de tout leur dialogue œcuménique en général. Parce que c'est ça qui est le cas dans la plupart du temps par rapport à des littératures polémiques, par exemple, qui ont été faites, écrites dans le passé. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur ce qui unit ces églises. Et là, dans le cas du dialogue entre les églises orthodoxes et orthodoxe orientale, il y a vraiment beaucoup de choses qui les unissent, j'y ai fait allusion. Donc, il n'y a pas seulement la foi, mais il y a aussi une vie chrétienne qui est très attachée aux sources du christianisme, à la vie liturgique et à la vie spirituelle et aussi à la vie ascétique. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui relie très profondément ces deux familles d'églises. Et donc, pour parvenir à un dialogue œcuménique en profondeur, il me semble qu'il faut revenir aux sources des préjugés historiques et des idées préconçues qui persistent malheureusement trop souvent à travers la transmission et de nombreuses générations. Parce que les gens sont imprégnés de partis pris, ils ne vont pas vérifier ces sources. Je parle du grand public, n'est-ce pas? Donc, le grand public, on peut dire, est hanté par un espèce d'inconscient collectif et aussi individuel, y compris à notre époque, pour nos contemporains. Et donc, il faut, me semble-t-il, rendre possible la guérison des mémoires, ce qu'on pourrait appeler la guérison des mémoires. Il faut aussi tout faire pour accroître la confiance mutuelle avec les autres, et avoir, je dirais aussi, un engagement concret dans le travail œcuménique. Et pour là, c'est ce que je faisais allusion à ça tout à l'heure, il faut comprendre que chacun d'entre nous, on peut participer d'une manière ou d'une autre à ce travail œcuménique. Par exemple, aller assister dans une église qui n'est pas la nôtre à une liturgie. Et cela est possible dans le cas même avec les églises orientales orthodoxes qui sont moins connues évidemment que l'église orthodoxe. Et c'est possible de faire ce genre de rencontres, de visites, même en France, puisque en France, on a aujourd'hui des paroisses bien vivantes des églises orthodoxes orientales, non seulement à Paris et dans les banlieues, mais dans de nombreuses villes de France. Et je mettrais l'accent sur l'éducation, parce que il est plus essentiel encore, à part l'éducation, d'opérer un changement de cœur, un changement de mentalité. Et c'est ça qu'on appelle en grec la métanoïa, n'est-ce pas? Et ça, je pense que c'est au cœur de tous les dialogues œcuméniques.
C'est le retournement de l'esprit et du
cœur.
Oui, c'est du cœur.
Oui. Et c'est comme ça, je pense, en se rencontrant, en étudiant nos traditions respectives, que les familles d'Église pourront parvenir à considérer à la fois leur propre histoire et la théologie et celle des autres sous un jour nouveau. Sous un jour nouveau, on doit enlever nos vieilles lunettes et en mettre des nouvelles, n'est-ce pas? Et avoir une nouvelle vision. Et c'est ça le dialogue œcuménique, c'est de découvrir les autres. Et donc, ça nous permet de renforcer nos relations œcuméniques et de poursuivre un dialogue bien informé et donc un dialogue qui sera fructueux. Et je dirais qu'on peut appliquer mes réflexions à tous les dialogues œcuméniques.
Oui, bien sûr, c'est la base. Évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, effacer l'histoire est une chose impossible. Donc, il faut peu à peu regagner un peu, par les relations humaines, déjà la confiance des autres, parler, voir quels sont les vrais points de divergence et puis qu'est-ce qui est dû au comportement humain qui, à travers l'histoire, très souvent...
Oui, c'est une métanoïa historique et aussi individuelle. Et communautaire, évidemment.
Il faudra donc être patient, heureusement ou malheureusement, mais c'est comme ça, on ne peut pas...
Mais on peut avoir l'espérance, c'est quand même...
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, nous sommes...
de la semaine de l'unité.
Exactement, l'espérance fait partie du devoir, même, je dirais, de tout chrétien, parce qu'autrement, nous ne sommes pas dans le cadre demandé, et puis à ce que le Christ a demandé. Christine Chaillot, merci. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé sous le titre « Relations and Exchanges between the Eastern Orthodox Chalcedonian and Oriental Orthodox Non-Chalcedonian Churches in the Past and Today ». En français, ça donne « Relations et échanges entre les églises orthodoxes chalcédoniennes et les églises orthodoxes orientales non-chalcédoniennes dans le passé et aujourd'hui ». Ça a été édité par l'Académie de Volos en 2025. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Réalisation Charlotte Roux. Prise de son Delphine Baudet. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Bon dimanche à tous.